Rien ne paraît plus arriéré, plus désuet aujourd'hui que de parler de péché. C'est un terme qui appartient exclusivement au langage religieux. Il semble faire bande à part dans la foule des mots courants, et on s'en méfie. Cependant, ce n'est là qu'un prétexte, car c'est toute la signification, toutes les implications de ce mot-là qu'on cherche à éviter. Rien n'est plus inconfortable, en effet, que de parler de péché quand on s'amuse bien, dans une parfaite insouciance, souvent même au mépris des règles élémentaires de la morale. Alors on préfère se moquer de l'idée de péché. Le cynisme est souvent le refuge de ceux qui luttent contre leur conscience. Cependant, nous allons insister. Et au lieu de parler de péché, parlons de faute et de culpabilité. Parlons d'injustice et d'infidélité. Parlons de transgression de la loi de Dieu. Car ce sont là aussi des termes que l'on rencontre dans les Écritures. Ce sont des mots connus, des mots qui peuplent nos journaux, des mots dont on se sert pour composer les gros titres prometteurs, des mots qui décrivent les actions des autres, mais non pas les miennes. Et nous y voilà. Nous voilà en plein drame spirituel, et le mot n'est pas trop fort. Le drame, c'est que tout le monde se sent en général assez bien portant spirituellement et moralement. Après tout, que me reproche-t-on ? Je n'ai jamais tué, je n'ai jamais volé, je paie mes impôts, je suis un bon citoyen. Oh, bien sûr, j'ai mes défauts, mais qui n'en a pas ? Voilà le genre de propos que l'on recueille. Des propos de malades qui se croient bien portants et qui n'ont que faire du remède dont on leur parle. Tout cela trahit une effrayante ignorance de la notion du mal telle que la Bible le définit. En général, on associe l'idée de péché ou de mal à un acte flagrant comme le crime, l'adultère, le vol. Tout le monde conviendra que ce sont là des péchés indiscutables. Le mensonge, la calomnie, la médisance, la gloutonnerie sont désignés par un vocabulaire très clément. On parle de vilains défauts, de péchés mignons, de travers regrettables, etc. Cette mentalité est par surcroît empoisonnée par une classification des péchés par ordre d'importance. Qui a permission de décréter qu'aux yeux de Dieu, le meurtre est plus grave que le mensonge ? Ou que l'adultère est plus haïssable que la gloutonnerie. On a l'impression que la législation divine a été écartée et remplacée par des lois humaines plus commodes. Le résultat est que les hommes se sont peu à peu insensibilisés contre l'idée du péché en eux. Leur conscience est endormie par la conviction qu'ils ne commettent pas de fautes graves et qu'ils ne sont coupables que de péchés véniels. Dans ce raisonnement, les hommes sont semblables à l'alcoolique qui se persuade qu'il n'est pas alcoolique et qui cherche à en persuader les autres, même son médecin, sous prétexte qu'il n'est jamais ivre. Mais le diagnostic est là. La quantité d'alcool qu'il absorbe tous les jours, à dose de plus en plus grande, a fait de lui un malade et un esclave, même si on ne l'a vu ivre que très rarement. Nous devons aujourd'hui ouvrir le livre du médecin des âmes et entendre son diagnostic à notre égard. En cela, l'Évangile prend d'abord l'aspect d'une mauvaise nouvelle avant d'être la bonne nouvelle. Dans la Bible, et là seulement, nous découvrons toute l'horreur du péché, tel que Dieu le voit, en nous, et toute l'histoire du péché depuis le commencement. On oublie que c'est le péché qui a crucifié le Christ. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, avait dit le prophète Ésaïe. Jean-Baptiste le désigne comme étant l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. De quel péché parle-t-il ? Il s'agit de notre état d'âme en général, qui est déterminé par nos actions et nos attitudes. Il s'agit de notre injustice, de notre égoïsme, de nos omissions et de nos compromissions coupables. En un mot, notre péché consiste surtout dans le fait indéniable que nous avons exilé Dieu de notre vie. Et si parfois on lui accorde une petite place, c'est pour faire comme tout le monde aux grandes occasions. Mais il n'est qu'un à côté, il n'est qu'une parenthèse dans notre existence. Voici quelques textes bibliques importants. Jésus dit par exemple, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » Cette déclaration condamne notre attitude tiède et neutre à l'égard de celui qui est venu offrir sa vie pour nous. Et qui ne s'est pas senti visé par cette autre déclaration du Christ ? « Quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire. » À l'intention de ceux qui ne feraient pas de mal à une mouche, bien qu'en réalité, ils n'ont jamais fait le plus léger sacrifice pour un seul de leurs semblables, l'apôtre Jacques écrit avec fermeté « Celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. » Et que dirions-nous encore d'un méfait de la langue que l'apôtre considère comme étant pleine d'un venin mortel? Dans le chapitre 5 de sa lettre aux Galates, l'apôtre Paul évoque le conflit qui existe entre la chair et l'esprit. Il dénonce les œuvres de la chair. Quelles sont-elles? Pour lui, ce n'est pas seulement l'impudicité ou la dissolution, comme nous le pensions peut-être, mais c'est aussi les querelles, la magie, et qui l'eût cru, les disputes, l'ivrognerie, les jalousies, les animosités, les divisions, les sectes, l'envie, les excès de table et les choses semblables. L'apôtre ajoute implacablement, « Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. » Voilà une classification pour le moins surprenante. Qui eût pensé que dans l'esprit de Dieu, les excès de table voisinent avec l'impudicité et que l'envie est aussi coupable que l'ivrognerie? Dans leur zèle à vouloir se justifier et se disculper devant Dieu, les hommes adoptent généralement trois attitudes que nous allons voir brièvement et dans lesquelles nous nous reconnaîtrons sans doute. Tout d'abord, ils s'abritent derrière une vertu dont ils se croient abondamment pourvus, la bonté. Ils se croient naturellement bienveillants lorsqu'on les laisse en paix et ce sentiment doit pardonner tous leurs péchés. Il faut dénoncer dans cette attitude l'orgueil démesuré qu'elle exprime. Le salut est considéré comme une chose due. Le sacrifice de Christ est sans doute valable pour les autres, mais il n'avait pas besoin de mourir pour moi. Ce n'est pas la bonté personnelle de l'homme, toute relative d'ailleurs, qui le sauvera de ses péchés, mais le sang du Christ. Le Nouveau Testament rapporte le cas d'un homme sincèrement pieux. Il s'agit de Corneille, dans le chapitre 10 du livre des Actes. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Mais le texte biblique est loin d'impliquer que les qualités de cet homme, pourtant authentique, suffisaient à son salut. Au contraire, il fut averti que l'apôtre Pierre viendrait le voir, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé. Ce n'est que lorsque Pierre est venu que l'homme en question a pris connaissance de son salut en Jésus-Christ. Une seconde attitude consiste à se sentir en sécurité au sein de la masse. Le refuge dans l'anonymat. L'écrivain C.S. Lewis a bien décelé cette tactique, qui n'est en somme, dit-il, qu'une excuse pour esquiver le problème réel. Il faut nous défendre contre cette impression que le nombre crée la sécurité. Nous avons naturellement le sentiment que si tous les hommes sont aussi mauvais que le disent les chrétiens, le mal doit être alors excusable. Devant Dieu, tout homme est seul. Tout homme est jugé en fonction de ses responsabilités et de sa liberté. L'apôtre Paul a dit, « Il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. » Une troisième attitude consiste à se comparer avantageusement par rapport à autrui. C'est le pharisaïsme en plein. Il nous suffira ici de rapporter la parabole de Jésus à l'adresse de ceux qui sont convaincus d'être justes et qui méprisent les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Ces deux personnages sont choisis aux deux extrémités de la société juive. Le pharisien est respecté, le publicain particulièrement détesté. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait pas même lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis. » Celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Jésus dit encore aux pharisiens de tous les temps, « Vous, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. » Le fait est que Dieu, dans sa révélation, nous fait savoir que nous sommes coupables à ses yeux. Les expressions qui attestent ce fait abondent dans les Écritures, et c'est là le diagnostic qu'il faut entendre. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il est essentiel au christianisme que l'homme recouvre le vieux sens du péché. Le Christ tient pour acquis que les hommes sont mauvais. Tant que nous ne sentons pas réellement que son opinion correspond à la vérité, bien que nous fassions partie du monde qu'il est venu sauver, Nous ne faisons pas partie de l'auditoire auquel s'adresse sa parole. Il nous manque la condition première pour comprendre ce dont il parle. Ésaïe avait déjà dit « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. » Et l'apôtre Jean résume tout en déclarant que le péché est la transgression de la loi. Ces mots nous condamnent tous. Ils nous montrent que nous sommes incapables de nous justifier de par nous-mêmes, donc incapables d'éviter la condamnation que nous méritons. Et nos quelques bonnes œuvres ne sont qu'un feu de paille. C'est à ce point qu'intervient le sacrifice du Christ, qui personnifie la grâce de Dieu. L'apôtre Paul écrit « Lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dès lors, ceux qui acceptent par la foi, par un acte de confiance, d'être représentés auprès de Dieu par le Christ, ceux-là sont justifiés. C'est pourquoi le mot d'ordre de l'Évangile est « Repentez-vous » et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Jésus avait déjà dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Saul de Tarse, après avoir rencontré le Christ sur la route de Damas, alors qu'il se trouve dans un état de remords et de repentir profond, reçoit lui-même ce commandement « Que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés. » Plus tard, devenu l'apôtre Paul, il pourra enseigner avec ferveur « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car notre sagesse, c'est lui, notre justice, c'est lui, notre rédemption, c'est lui. Par conséquent, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. »